C'est donc de cela que nous allons parler, l'homme parfait tel qu'il se donne comme idéal, mais peut-être encore plus tel qu'il se propose comme cheminement à suivre pour arriver, comme un horizon finalement qui n'est jamais atteint et auquel il faut œuvrer chaque jour. Pour ouvrir cette journée, donc, nous commençons avec Christian Jambet, à tout seigneur, tout honneur, puisque Christian Jambet, je ne vais pas vous le présenter, il est directeur d'études à l'EPHE, grand spécialiste évidemment de l'islamisme et de Mollah Sadra en particulier, mais pas seulement. Et surtout, lui-même a été très proche d'Henri Corbin, et je crois qu'il va pouvoir déployer toute sa science concernant l'homme parfait. Et donc, nous l'écoutons. Merci.
Je propose de parler de l'homme parfait comme idéal de la vie spirituelle selon Mulla Sadra pour la raison suivante. D'abord parce que on peut rappeler que Mulla Sadra, Muhammad ibn Ibrahim Shirazi, selon son nom réel, Mulla Sadra est son surnom, est probablement le plus grand philosophe que l'islam chiite duodécimain ait connu. C'est un homme du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il est né à la fin du XVIe siècle, en 1571, il est mort en 1640, probablement, probablement. Ces dates ne sont pas absolument avérées. Il a laissé une œuvre considérable, aussi bien comme métaphysicien que comme commentateur du Coran, commentateur des hadiths des imams, et il représente, aux yeux de tous, ce qu'on peut appeler la gnose, l'irfan, ou la connaissance véritable, comme on voudra, la connaissance authentique, telle qu'elle se présente dans la complexité de ses approches, aussi bien philosophiques que spirituelles, dans le chiisme imamite, on a envie de dire récent ou tardif, non pas le chiisme imamite originaire, mais celui qui véritablement se constitue grâce à la philosophie. Pour bien considérer les choses, et comme le disait Leïli Anvar, l'homme parfait est à la fois une réalité ontologique, on va le voir, quelque chose qui affecte la nature même de l'être et de l'étant, et il est aussi un but, un pôle du perfectionnement humain. L'homme parfait est ce que l'on devient au terme d'un parcours ou d'une progression, dont précisément le gnostique et à la fois le réceptacle et le témoin, et en même temps, cet homme parfait est une entité, à la fois, d'ailleurs, on verra, cosmique et métaphysique. Alors, pour bien situer mon intention, je ne traiterai pas complètement, ni même de manière trop détaillée, de quelque chose dont Mulla Sadra a pourtant abondamment parlé, et qui est la dimension cosmique de l'homme parfait, comme macrocosme et comme manifestation cosmique de l'intellect procédant de Dieu. Je l'évoquerai, mais ce n'est pas exactement ce que je voudrais essayer d'explorer avec vous. D'abord parce que sur ce point, Mulla Sadra est amplement tributaire d'Ibn Arabi, et que, au fond, il faudrait alors parler essentiellement de l'homme parfait selon Ibn Arabi, et ensuite parce que cette entité, à la fois métaphysique donc et cosmique, étant le pôle de la vie spirituelle, il est peut-être plus intéressant d'abord, ou en tout cas plus curieux, de voir ce que c'est que cette vie spirituelle et comment la vie spirituelle peut non seulement viser la perfection de l'homme, mais être guidé par l'homme parfait. Alors, je disais en commençant que la vie spirituelle, c'est par excellence la vie du gnostique. Le terme el-aref, que l'on traduit souvent par le gnostique, est en effet l'équivalent en arabe, à peu près exact, du terme grec gnostikos, et ceci ne renvoie pas exactement au gnosticisme, il ne faut pas là-dessus faire de confusion. Non, cela renvoie à ce que le mot gnostikos désignait d'ailleurs dans le monachisme et dans les métaphysiques qui accompagnaient la vie monastique en Orient. Le gnostikos, c'est celui qui connaît vraiment Dieu et celui qui vit d'un mode d'être spécifique, spécial, en une station, un makam, que tous les hommes n'occupent pas, mais que seuls possèdent ou occupent les vrais savants qui constituent une élite spirituelle. C'est pour cela que le terme el-aref, qui est très très usité, bien sûr, hein, aussi bien en philosophie que dans l'univers de la mystique, le terme el-aref appartient au lexique, bien sûr, du soufisme, de la spiritualité, spécialement au soufisme d'Ibn Arabi, et que c'est en ce sens qu'il est emprunté et largement utilisé par Mullah Sadra. Mullah Sadra a rédigé un très grand nombre de livres, mais entre autres, il nous a laissé une sorte de livre d'apologétique de la vie spirituelle qui s'intitule « L'éveil des dormants » et « Qaz al-Na'imin », « L'éveil des dormants ». Alors, cet ouvrage apologétique, qui est composé de diverses façons, je ne vais pas entrer dans les détails, donne bien l'ambiance, si l'on peut dire, de ce que Mullah Sadra a appelé gnose ou connaissance vraie comme exercice de la vie spirituelle, ma'rifa ou irfan. Il situe cette notion sous le chef de tout un ensemble d'œuvres, et ce qui est d'ailleurs très remarquable, c'est que la plupart de ces œuvres ne sont pas des œuvres d'auteurs chiites, mais sunnites. Et il est remarquable qu'il convoque, pour définir donc la vie spirituelle, des auteurs, des autorités, qui sont presque toutes des grandes autorités du soufisme ou de la poésie spirituelle, mystique, disons plutôt sunnite, Ibn Arabi, Sadruddin Konyavi, le beau-fils d'Ibn Arabi, Abul Qasim al-Junaïd, bon, le soufi, Alaoud Daulat al-Semnani, le grand maître spirituel, bien entendu l'imam Razali, qui est la figure majeure de la spiritualité et de la théologie sunnite, Jalaluddin al-Rumi, Sohavardi Sheikh al-Ishraq, qui était sunnite lui-même, mais aussi le maître soufi qui est son homonyme de Bagdad, Sohravardi, l'autre Sohravardi. Et nous voyons donc bien que pour définir la vie spirituelle, Mullah Sadra a tenu à convoquer, pourrait-on dire, tout l'édifice du soufisme et essentiellement du soufisme sunnite. Cela d'ailleurs donne une certaine complexité à l'image de notre philosophe. Alors venons-en à ce qu'est pour lui, et dans l'éveil des dormants en particulier, la figure de l'homme parfait. Pour lui, l'homme parfait, c'est d'abord, j'en disais deux mots tout à l'heure, un être, une entité qui se place dans l'élément de la cosmologie. C'est, dit-il, la plus noble partie du macrocosme. Autrement dit, c'est certes l'homme, mais c'est l'homme tel qu'il se situe à la fois au centre et au sommet de l'univers physique, et donc tel qu'il gouverne cet univers physique parce qu'il en est lui-même la perfection. Mais d'autre part, cette entité cosmologique qui est l'homme parfait correspond à quelque chose en l'homme lui-même qui est la perfection de l'homme. L'homme parfait, pourrait-on dire, englobe tout l'univers. Il est, pourrait-on dire, la configuration à visage humain de l'univers parce qu'il est l'homme tel qu'il manifeste Dieu, verra comment, et qui dans cette manifestation de Dieu gouverne en tant que calife de Dieu l'univers, mais d'autre part, il est, au niveau alors humain le plus immédiat, dans la vie humaine, pourrait-on dire, telle qu'elle est donnée à chacun de nous, il est la perfection de cette vie, parce qu'il est l'homme qui possède une vision directe dans la contemplation des essences et des réalités. Et c'est cela, véritablement, que vise Molla Sadra lorsqu'il parle du but ou de la finalité de la vie spirituelle. Il s'agit d'acquérir cette vision directe. Alors, cette vision directe, quelle est-elle? Nous essaierons de la définir ou de la comprendre. Mais du seul fait que l'homme, lorsqu'il atteint la perfection de sa vie spirituelle, coïncide ou correspond avec l'entité cosmique de l'homme parfait, de ce seul fait, cet homme atteint un stade, une station, où il est à la fois l'intellect pur qui manifeste la science divine et l'ensemble des attributs divins, et par là même il devient l'intellect humain tel que par lui, dit Molla Sadra, Dieu contemple sa création, et la perfection de l'homme est la contemplation même de la création de Dieu par Dieu, et d'autre part, il est aussi, bien sûr, l'homme tel qu'il peut, dans la mesure du possible, sinon contempler Dieu, du moins approcher, se rendre proche de l'enceinte de la divinité. Et c'est en ce sens que le progrès de la vie spirituelle conduit chaque homme qui en est capable à coïncider, à s'unifier avec le mode de manifestation de l'ensemble des noms et des attributs divins. On peut dire que Molla Sadra a bien compris cette coïncidence qui a été théorisée magnifiquement par Ibn Arabi entre l'entité cosmique de l'homme divin et le devenir de l'âme humaine, de l'âme pensante, de l'âme rationnelle, qui est aussi l'âme mystique. Il s'agit pour l'homme non seulement de se conjoindre, mais même de s'unifier avec la première intelligence, l'intelligence qui procède en premier du Créateur et qui n'est autre que l'intelligence prophétique éternelle. Or, cette intelligence prophétique éternelle n'est autre que le mode de manifestation de Dieu lui-même, du moins des noms et des attributs divins. Dans cette coïncidence, on pourrait dire que s'atteint de manière ineffable l'unité du cosmos, de l'âme humaine et de la manifestation divine. Et Molla Sadra cite à de nombreuses reprises, par exemple dans son commentaire du verset de la lumière, mais aussi dans ce petit ouvrage que je sollicite maintenant, des vers, des distiques qui sont attribués à Ali ibn Abi Talib, le prince des Aouliyas, comme ils appellent, le modèle même de la vie spirituelle, et que je cite très maladroitement en français, « Toi, tu es le livre clair qui, par ses signes, éclaire, manifeste ce qui est caché. Or, tu dis que toi, tu serais un petit corps, alors qu'en vérité, en toi, est enveloppé le monde le plus grand. » L'homme parfait est bien à la fois le livre clair mentionné dans le Coran, c'est-à-dire l'archétype même de tous les livres révélés. Il est à la fois la manifestation de ce qui est caché et loin d'être simplement un petit corps humain, il contient dans sa vie spirituelle le macrocosme tout entier. Molla Sadra se réfère très souvent au beau-fils d'Ibn Arabi, Al-Kunawi, et en particulier à des commentaires que Kunawi a consacrés à la Fatiha, la première sourate du Coran. Et c'est à partir de Kunawi que Mulla Sadra a véritablement compris et énoncé comment le macrocosme qui est créé par Dieu avait la forme d'un livre, du livre totalisateur de l'ensemble des lettres qui sont au fond les principes constituants de l'univers. Alors il faudrait parler là de la mystique des lettres et de la mystique des nombres, je ne le ferai pas, mais pour les héritiers d'Ibn Arabi, il allait de soi que, dans des termes attribués aussi à Pythagore, que l'essence des choses était à la fois l'unité et des modes de l'unité et les lettres d'un alphabet qui, étant combiné selon diverses combinatoires, constituait à la fois le livre saint, le livre du monde et le livre de l'âme. Bon. Alors, l'homme parfait est la sommation, pourrait-on dire, de ces formes qui sont au total les formes des noms du réel divin. Par là même, l'homme parfait est aussi ce qui écrit ces formes, ce qui les inscrit dans la réalité d'ici-bas, et il est le kalam suprême, la plume, au fond, par laquelle, ou le roseau par laquelle, lequel Dieu écrit ineffablement l'ensemble du monde à partir des archétypes constitués par les lettres et par les nombres. Par là même, l'homme parfait est déjà présent dans le monde métaphysique comme intellect, comme kalam et comme archétype du livre. Mais voici que cet homme parfait est aussi le microcosme, c'est-à-dire l'homme vivant avec un corps, une âme et un intellect. Et en tant qu'il est microcosme, il est appelé le livre médian, c'est-à-dire le livre médiateur qui opère la présence des noms, dit Cognavi, et la présence de celui qui est nommé, c'est-à-dire Dieu. L'opérateur de cette présence est évidemment lié à la création du Coran, parce que l'homme parfait, et je vais en venir enfin là, c'est éminemment le prophète, et aussi, pour notre auteur Mulla Sadra, bien entendu, le légataire du prophète, c'est-à-dire l'imam. Donc, en tant que prophète, l'homme parfait totalise la science intégrale du Coran, et quant au Coran, il est l'écrit qui explicite l'ensemble des attributs divins et par là même nourrit cette science spirituelle du prophète et de son successeur. Or, et venons-en alors du coup à la vie spirituelle, elle-même, car c'est d'elle qu'il s'agit essentiellement ici, l'homme en sa perfection cognitive et pratique, nous dit Mulla Sadra, a pour pôle d'orientation et pour but, pour finalité, ce microcosme uni au macrocosme que l'on appelle l'homme parfait. Pour cela, pour atteindre à ce but, encore faut-il qu'il mène une vie spirituelle, dont nous avons vu qu'elle est essentiellement la gnose. Alors, quelle est l'essence de cette vie spirituelle? Peu importe. Eh bien, pour Mulla Sadra, la vie spirituelle, el-hayat, el-mahnawiya, ou el-ruhaniya, la vie spirituelle est essentiellement conditionnée par la mort volontaire. Mulla Sadra est avec d'ailleurs d'autres penseurs de son temps, comme par exemple Mir Damad, un adepte de la mort volontaire, entendons la mort volontaire au désir, aux objets du désir, les ma'areb. Il faut mourir au monde. Il n'y a pas de vie spirituelle tant que l'on ne se détache pas du monde inférieur, du degré des réalités qui sont seulement apparentes. De là que la vie spirituelle, qui a pour fin l'homme parfait, est essentiellement un exercice de la mort. Et Mulla Sadra cite très souvent le mot attribué au prophète Muhammad, « mourez avant que vous ne mouriez ». En effet, selon lui, la condition d'ici-bas, celle qui empêche la perfection, est caractérisée par le divertissement, le jeu, les vanités. Il cite fréquemment Coran, la sourate 29 au verset 64, la vie de ce monde n'est que divertissement et jeu, la demeure dernière, c'est vraiment la vie, s'il savait. La vie d'ici-bas est un passage, une métaphore, un majaze. La vie d'ici-bas n'a aucune réalité, elle est sans hakika, en arabe, sans aucune réalité, sans aucune stabilité, et elle n'a en réalité pas d'être, wujud. Or, on s'imagine que la vie d'ici-bas a une réalité, alors qu'elle n'est qu'un mirage. Sadra cite également, il aime, il affectionne le verset 39 de la sourate 24, hein, « Semblable à un mirage dans une plaine, celui qui est altéré croit voir de l'eau, mais quand il y arrive, il ne trouve rien. » Donc, pour Moulla Sadra, tant que l'homme ne meurt pas à l'appétit de tout ce qui est douceur, décor, esthétique, vain décor de ce bas-monde, et tant qu'il n'existe pas dans ce qu'il appelle la seconde naissance, il n'y a pas pour lui de perfection, c'est-à-dire de séjour auprès de Dieu. Et il se soutient dans cette conviction par deux références très importantes, l'une qui est coranique, verset 64 de la sourate 29, « La demeure de la vie dernière est vraiment la vie, s'il savait. » Et surtout, un logion qui est attribué à Jésus et qui de fait est présent sous une forme légèrement différente dans l'évangile de Jean et dans d'autres textes bien connus, une phrase cardinale de Jésus, n'entre dans le royaume des cieux que celui, n'entre pas dans le royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois. Donc il faut mourir à la première naissance ou première condition et il faut renaître en une seconde naissance selon la maxime de Jésus lui-même. La seconde naissance et la vie spirituelle, dit Moulla Sadra, ne se produisent pour l'homme que s'il suit les préceptes de la religion et les lois divines. Alors, les normes divines, ou les lois divines. Par conséquent, la vie spirituelle est d'abord essentiellement une purification morale qui conduit à l'acquisition, bien sûr, de connaissances spécifiques, de mœurs, les akhlaq, qui sont les mœurs divines, d'habitudes nouvelles et de biens nouveaux. De là, quelque chose que l'on rappelle insuffisamment, souvent, qui est que le perfectionnement de la vie spirituelle est d'abord une modération de l'âme, un nivellement des passions de l'âme. Il emploie le mot souvent d'égalisation, de tempérance, et nous retrouvons là, bien sûr, un très grand nombre de thèmes de la morale antique. Mais cela ne suffit pas. Il y faut aussi une insufflation de l'esprit. Et ceci n'est pas sans rapport avec la référence à Jésus, bien entendu, de même qu'on pourrait faire la référence à Adam. L'insufflation de l'esprit n'est pas l'insufflation du pneuma de la vie, du pneuma animal, c'est l'insufflation de l'Esprit Saint lui-même, de l'Esprit de sainteté. La naissance spirituelle de l'homme, qui est la condition de son véritable progrès, est donc à la fois le résultat d'une pratique de purification morale et d'une insufflation spirituelle qui est une donation divine et qui conduit, alors, et on voit les emprunts à la littérature du soufisme qui sont si importants, qui conduit à quatre grandes figures de la vie spirituelle en l'homme, la vraie foi, nous allons voir en quoi elle consiste, le repentir, tauba, l'ascèse, zord, et l'obédience ou le service spirituel et aussi rituel rendu à Dieu. Cette conception de la vie spirituelle est évidemment pour Mullah Sadra articulé essentiellement à la théorie de la connaissance et à la théorie de la progression de l'âme au fur et à mesure de son développement et de sa croissance. Alors qu'est-ce que la vraie foi qui constitue la perfection du gnostique? D'abord, remarquons que cette vraie foi s'articule à une vie ascétique et que la liberté spirituelle s'accompagne d'une rigueur morale intense, sans laquelle aucune connaissance ou gnose ne pourrait s'actualiser en l'homme. Ensuite, il faut bien voir que pour avoir une telle insufflation de l'esprit et obtenir par conséquent une véritable gnose qui perfectionne l'intellect humain, encore faut-il recevoir un enseignement. La seule véritable critique que Mulla Sadra a adressée aux soufis, et pas seulement aux soufis de son temps, c'est de mépriser l'enseignement. Bon, il le dit très en détail, il admire la manière dont les novices qui viennent en apprentissage chez les maîtres du soufisme se rendent disponibles par l'ascèse à l'insufflation de l'esprit, mais il considère que tout ceci n'est possible véritablement que chez un homme qui serait déjà parfait, autrement dit le prophète ou l'imam lui-même, mais que chez les humbles commençants que nous sommes tous nécessairement, cette démarche est beaucoup trop difficile. Il y faut une contention d'esprit, dit-il, un véritable éveil permanent de l'âme pour repousser les suggestions sataniques, de sorte qu'inévitablement le commençant, le novice, succombe au cours de la journée à une sorte de lourdeur de l'âme, où il écoute avec un certain plaisir les séductions des passions, et par là même il échoue à se perfectionner. Tandis que s'il avait une connaissance préalable enseignée par le véritable enseignant, eh bien notre commençant pourrait véritablement commencer, et surtout il pourrait véritablement poursuivre. Alors on ne serait pas surpris d'apprendre qu'évidemment pour notre philosophe chiite, la source de la gnose qui doit être enseignée, non seulement aux commençants mais même aux autres, c'est le savoir enseigné par les imams, qui sont les guides prédestinés par Dieu à l'exercice de l'autorité et de la direction spirituelle, lorsque, du moins, le temps de la prophétie législatrice est clos. Par là même, on voit que l'homme parfait, qui est le prophète et l'imam, est également le guide de la vie spirituelle. Il écrit, par exemple, dans son commentaire du Kafi de Kulayni, « Le but poursuivi en tout cela, c'est que les serviteurs de Dieu connaissent les portes de la guidance, les guides de la droite direction, les amis du miséricordieux, les luminaires éclairant le chemin du pays de la récompense, les gardiens autorisés de la religion et de la foi, afin qu'ils suivent leur voie et qu'ils acquièrent la lumière de la connaissance et de la gnose en leur tabernacle. » La gnose est donc le contenu de la mission des imams, et les imams sont là pour enseigner la foi véritable. Alors, la foi véritable, c'est, dit-il, la connaissance parfaite et la certitude parfaite. Certitude dont le contenu est l'unité et l'existence de Dieu, les paroles de Dieu, les significations ésotériques et exotériques des livres divins, la vérité des envoyés de Dieu, et surtout, pourrait-on dire, car c'est un des thèmes qui intéresse le plus Mulla Sadra, la vérité du jour dernier. Cette foi véritable, dit-il, c'est une lumière. Donc ça n'est pas un acte d'obédience aveugle, c'est au contraire une lumière qui effuse depuis Dieu sur l'âme humaine. Et lorsque cette lumière effuse sur l'âme, grâce à l'enseignant qu'est l'homme parfait, l'âme devient une substance sainte, dit Mulla Sadra, un esprit du monde divin, Et il va même jusqu'à dire, elle devient un homme divin, un ange intellectif. La perfection humaine, c'est de devenir un homme divin. Homme divin, insan rabbani. Il s'agit de quitter la condition créaturelle pour acquérir une forme de divinisation. La principale méthode de cette divinisation, c'est bien entendu le dévoilement des sens cachés des enseignements de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui permet de comprendre le contenu de la révélation et de l'inspiration qui ont été consentis aux prophètes et aux imams. La guidance de l'homme parfait consiste donc à procéder à, dans l'homme qui est l'étudiant, celui qui apprend, de procéder à l'éveil d'une connaissance exégétique. La gnose, selon Mola Sadra, n'est pas une connaissance aberrante et irrationnelle, c'est essentiellement une connaissance exégétique. Ensuite, cette gnose qui est la vie spirituelle et qui est guidée donc encore par l'homme parfait, c'est la perfection d'un mode de vie. Pour Mulla Sadra, le mode de vie que la vie spirituelle doit adopter, c'est la vie du pérégrin ou du pèlerin, salik. Les enseignements de la voie, c'est de la loi divine qui est aussi un cours ou une voie, ces enseignements sont révélés à l'homme pour l'éveiller à son propre pèlerinage, c'est-à-dire lui donner le souci de sa vie future dans l'autre monde. Nous avons vu que la vie spirituelle, c'était essentiellement mourir à soi-même et au monde. Mais encore faut-il pour cela avoir le souci de l'autre monde. Et il est très remarquable de voir que pour Sadra, l'enseignement prophétique n'est nullement destiné principalement à la gestion de ce monde. Bien sûr, il y a une part de gestion, il y a une part de législation qui pour gérer la vie sociale, mais l'essentiel est d'attirer vers le souci de la vie future, d'éveiller, d'inquiéter même, il le dit à plusieurs reprises, il dit, le prophète secoue un peu le dormant et fait qu'il s'inquiète, il cesse d'être dans la tranquillité. Et c'est ainsi que commence chez l'homme, après ce moment d'inquiétude, la formation de l'homme intérieur, de l'homme spirituel. L'homme, on l'a vu, doit devenir une substance lumineuse. Il doit acquérir un habitus lumineux, dit Sadra. Et lorsque cet habitus, c'est-à-dire cette présence habituelle de la substance lumineuse, inhabite le cœur du fidèle en permanence, grâce à l'effusion divine, eh bien alors a lieu la vision dont nous parlions au début, la vision immédiate de l'intellect. Les réalités des choses sont vues par l'intellect comme elles sont. On sait que c'est la propriété essentielle du prophète que de voir les choses comme elles sont. Et alors l'homme voit en une vision intellective exactement comme il voit dans l'état antérieur, les choses sensibles par la vue sensible. L'intellect devient une sorte de sensibilité supérieure, immatérielle, qui atteste la présence des choses comme elles sont, avec l'immédiateté même que la connaissance sensible possède ici-bas. Cette perfection, dit-il, je cite, est la plus excellente, et je cite alors un moment de assez rhétorique comme ça, où il écrit « Existe-t-il une perfection plus excellente et plus noble que ce par quoi l'animal humain devient un ange rapproché, la substance ténébreuse devient une lumière intellective, l'aveugle devient voyant, l'égaré devient le bien guidé, l'inférieur devient le supérieur, et celui qui est plongé dans un gouffre va dans les hauteurs. » Bon, très beau moment de littérature, mais qui est très, très précis. La vision directe par l'intellect, donc cette sorte de sensibilité supérieure, par quoi ces perfectionner la vraie nature de l'âme humaine, cette vision permanente et habituelle, semblable à la lucidité du prophète, est le statut humain équivalent à celui des anges rapprochés du trône divin. C'est aussi le résultat d'une alchimie, d'une transformation de la nature ténébreuse en laquelle l'âme a chuté depuis sa vraie patrie, il y a toute une doctrine de la chute de l'âme chez Mulla Sadra, une transformation, donc, métamorphose, alchimie, de cette nature ténébreuse en une nature lumineuse que l'âme retrouve au terme de sa réception de l'effusion du flux divin. Et enfin, cette vie est à la fois une ascension et une libération. Alors, on le voit parfaitement, la connaissance, l'enseignement par le prophète et par l'imam conduisent donc à une divinisation, à une connaissance immédiate qui est aussi une sorte de préfigure de la vie future, de la vie paradisiaque, et encore, faut-il dire, presque hyper paradisiaque des esprits intellectifs dans l'autre monde. Or, seul, et c'est ça l'important, seul le gnostique est le véritable serviteur de Dieu, donc non seulement c'est un parachèvement de l'existence, mais c'est le véritable service divin qui est en jeu, et surtout pour Sadra, seul l'imam, après le prophète, est le véritable gnostique, et par là même, seul il est le véritable homme parfait. Alors, je donnerai quelques éléments de cela pour voir un petit peu ce qu'il entend par là. Alors, seul le gnostique est le serviteur de Dieu, pour Mulla Sadra, donc seul celui qui a mené une vie spirituelle complète est le serviteur de Dieu, d'abord parce que seul il a une connaissance, une vision, on peut voir, de l'unité divine, de l'unité de l'essence, des attributs et des actes de Dieu. Son tawhid, sa profession de foi, dans l'unité divine, ne laisse aucune place à la moindre multiplicité en Dieu, écrit-il. En revanche, tous les autres hommes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de vie spirituelle, sont, dit-il, les serviteurs du multiple. Et ils recherchent en cette vie, ou dans la vie dernière, autre chose que la face de Dieu. Pour l'homme spirituel, le rapprochement de Dieu, le takarrub, est la seule chose qui compte. Et il n'a d'amour pour les prophètes, dit-il, et pour les imams eux-mêmes, que dans la mesure où ces personnes sont unies à l'essence divine. L'amour du gnostique s'absorbe, dit-il, dans l'amour qu'il a pour l'unité de l'essence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, chez Sadra, est très, très, comment dirais-je, important et atteste de l'influence de ces maîtres du soufisme dont je donnais quelques noms tout à l'heure. Sadra ne professe pas que l'amour envers le prophète et les imams soit le terme de la sagesse ou de la vie spirituelle. Il faut bien sûr les aimer, comme il faut aimer toute chose, mais il faut les aimer sans idolâtrie. Et il faut ne pas succomber à toutes les formes d'idolâtrie qui sont la dégradation de la foi en religion sectaire. Je vous cite ce passage, parce que tout de même, ça intervient dans sa conception du monde, qui me paraît particulièrement important. Il aimera seulement le spirituel, celui qui réclame son amour, et il n'aimera pas indûment ses co-religionnaires, les chefs de sa secte, et cela en raison d'un dessein tout différent du rapprochement avec Dieu. Autrement dit, il ne faut pas aimer ses compagnons, son clan, sa religion, sa secte. Il dénonce le fanatisme à Sabia, qui est une imperfection de la vie spirituelle, car c'est contraire, dit-il, au pur amour pour Dieu, sans aucune association à Dieu de quelque autre que ce soit. Et seul le gnostique conçoit ainsi le tawhid, selon une doctrine du pur amour, Donc le véritable enseignement des imams, c'est le pur amour, ça n'est pas l'esprit de secte, et il s'appuie bien entendu sur un verset amplement cité par les mystiques, la sourate 5, verset 54, « Dieu fera venir un groupe d'hommes, il les aimera et ils l'aimeront. » Le maître qui enseigne cela est le savant au sens vrai du terme, c'est l'imam, c'est l'homme parfait, et qui, au fond, s'efface derrière la révélation du véritable tawhid et du véritable amour. Par là même, Moulla Sadra considère que les imams sont les vrais témoins de Dieu pour sa création, c'est-à-dire pour l'homme. Dans des pages d'introduction à un chapitre de son commentaire du livre de la preuve de Kulayni, il montre remarquablement comment le maître spirituel, l'imam, possède la vision testimoniale directe, shuhud, la contemplation, la mushahada, qui n'a besoin d'aucune représentation et d'aucune médiation entre ce qui est perçu et celui qui perçoit. Pour Sadra, toute connaissance est l'expression de l'existence même, du mode d'existence. Et toute connaissance, dans son essence même, est présence. Cette présence est obscure chez les êtres inférieurs. Elle est là, hein. Tout ce qui existe connaît. Tout ce qui existe a un mode de connaissance, même les minéraux. Alors, a fortiori, les végétaux, les animaux, etc. C'est une doctrine très intéressante, qui n'est pas le seul à professer, mais qui est passionnante, que celle de cette présence obscure de la connaissance chez les êtres inférieurs les plus humbles. Enfin, il est vrai que cette connaissance-présence devient de plus en plus lumineuse au fur et à mesure que l'être exerce une purification et une ascension vers le principe. Alors, l'homme a précisément pour mission de purifier cette présence obscure de la connaissance et de l'objet de la connaissance dans les étangs les plus humbles et chez lui déjà, qui rassemble tout. L'homme est voué à la perfection et à être un homme parfait parce qu'il possède tous les degrés, des plus humbles aux plus élevés de la création. Il est aussi bien matière qu'esprit, bien entendu. Alors, ses sens dépouillent déjà les formes de la matière, mais enfin, venons-en au terme final. L'acte d'exister le plus intense, celui de l'homme parfait, de l'imam, coïncide avec une présence infiniment intense, la vision intelligible la plus intense, qui est la vision testimoniale dont nous parlions. Délivré par nature des ténèbres du monde matériel, du monde naturel, au contact direct du monde de la vie dernière, le monde intelligible, l'autre monde, le monde de la lumière, comme les appelle Sadra, l'imam est au comble de l'intensité de l'être pour un étant créé. Il vit, dit-il, de la vie même de la lumière, et il répand cette lumière sur la création. Les imams partagent la lumière spirituelle, bien sûr, avec les prophètes, et ils constituent avec les prophètes l'ensemble du plérôme prophétique, comme disait Henri Corbin, expression que je lui emprunte, le plérôme ou l'ensemble des êtres impeccables qui sont formés de la lumière divine et qui sont aussi bien les modèles de la vie spirituelle, puisqu'ils sont par nature les contemplatifs directs du monde divin. Ils sont les témoins directs du véritable monde des vivants, qui est l'autre monde. Ils sont donc, bien entendu aussi, les témoins du conflit entre ténèbres et lumière, entre monde matériel et monde spirituel, entre ce monde et la vie dernière. Alors, venons-en pour finir à ce qui permet chez l'homme de tendre vers ce comble de l'intensité de l'existence et de la connaissance. Je disais, l'imam et le prophète avant lui est à la fois le guide et le modèle du pérégrin, appelons-le ainsi, le salik, celui qui voyage. tout homme fidèle à sa nature, dit Sadra, est un voyageur, un pèlerin. Bon, c'est le titre de son magnum opus, hein, de son grand ouvrage, Les Quatre Voyages. Enfin, il n'est pas le seul. Ibn Arabi avant lui et d'autres ont mobilisé cette notion de voyage. Chez lui, elle prend un sens métaphysique et philosophique très important qui est communiqué par le concept de mouvement essentiel ou mouvement substantiel. El harakal jawhariya ou el harakal dhatiya, le mouvement essentiel. L'homme se distingue de tous les autres existants, dit Molla Sadra, non pas par le fait d'être en mouvement, mais par le fait de pouvoir lui-même décider de se métamorphoser, de se changer en la totalité des modes de l'être, de se donner toute forme et tout attribut. Le mouvement substantiel n'est pas un mouvement passivement reçu par l'homme, c'est un mouvement librement et consciemment assumé de transformation de soi-même. L'homme doit, s'il veut se perfectionner, vouloir se métamorphoser, mais attention, se métamorphoser en mieux, bien entendu. Dans l'idéal, alors, parce que certains se métamorphosent vers le pire. Non, c'est pour ça que j'introduis cette notion de liberté qui est capitale. Eh bien, pour Molla Sadra, il y a évidemment deux sortes d'hommes. Hein. Bon, il y a plusieurs, mais enfin, il y a deux grandes catégories qui sont ceux qui tendent vers l'ange et ceux qui tendent vers la bête ou le démon. Alors, évidemment, pour lui, il y a des hommes, par exemple, les compagnons du prophète sont des gens qui sont des démons, bon, pour parler clair, et qui sont évidemment responsables d'avoir choisi le pire. Hein? Bon, il emprunte beaucoup au maître du soufisme sunnite, mais il ne va pas jusqu'à admettre les compagnons du prophète. Un seul a fait le bon choix, qui est Ali, bien entendu. Bon, c'est ça, c'est la limite au côté embrassons-nous Folleville qui a parfois chez lui. Bon. Ah si, non, il réunit tout le monde dans la concorde, mais dans certaines limites tout de même. Alors l'homme passe par des transferts dans l'idéal et des transformations qui le conduisent à un mouvement d'intensification et d'élévation graduelle. Et il est menacé de perdre son chemin. Par exemple, la vie animale, qui est indispensable à la croissance de l'individu, est une vie dangereuse. Et c'est pourquoi, là je le cite, ce monde, le monde sensible, est le monde de l'oubli, où l'homme est plongé en un océan de ténèbres. Donc il faut en passer par certaines étapes, par exemple la vie de ce monde, qui sont à la fois indispensables et dangereuses. Dominés par nos passions, en proie à la concupiscence et au courroux, qui sont les deux grandes passions de l'âme animale, séduit par le démon, l'homme, dans la vie sensible et animale, est un homme qui dort. C'est vraiment la caractéristique des hommes en ce monde. Et c'est un homme qui dort parce que c'est un ignorant. La vie spirituelle a besoin d'un éveil, on l'a vu, c'est l'éveil que produit la prédication spirituelle du prophète, et lorsque cet éveil a été déclenché, l'homme se détache des faux biens, les honneurs, les richesses, les désirs, la famille, les enfants, et il vit une vie érémitique. Je voudrais insister, avant de finir, sur ce point qui est très curieux, dans la spiritualité de l'école d'Ispahan, au XVIIe siècle, en Iran. Je crois que Molla Sadra n'est pas le seul, mais en tout cas le premier des grands philosophes de cette époque à accorder une telle valeur, et même une valeur suprême, à la vie érémitique. Il faut mener une vie de solitude. Il faut se vouer à la solitude, à la méditation, à la récitation des noms divins, se vider le cœur de toute préoccupation, convertir son intériorité à Dieu seul. Si c'est le cas, alors les connaissances mystiques, traduisons ainsi, el rouloum el ladounia, les connaissances de proximité, enfin, c'est, en français c'est impossible, les connaissances qui attestent qu'elles sont venues directement de la proximité divine, les secrets divins, les lumières spirituelles apparaissent en leur pleine réalité et notre homme devient en effet un homme qui a une vision directe. La présence spirituelle du monde divin, la sakina, la présence, condescend alors à visiter cet homme et il s'unit aux intelligences immatérielles. Illuminé par les lumières dans lesquelles il se transsubstancie, explique Sadra, le pérégrin ou le pèlerin monte jusqu'au degré qui leur est supérieur, le degré où il contemple la souveraineté divine, l'unité absolue, la gloire de Dieu. La perfection de l'homme culmine dans un modèle qui est celui de Moïse. Et Moïse est un des grands modèles de l'homme parfait pour Sadra, parce qu'il est l'homme qui a subi au Sinaï l'expérience de l'anéantissement de soi. La montagne de son existence a été arasée, il se prosterne devant Dieu, il entend en sa vérité l'exclamation « À qui le règne ce jour-là ? À Dieu, l'un le victorieux. » Coran, sourate 40, verset 16. Le terme du voyage est donc assez semblable à son origine. À l'origine, il y a l'éveil et la volonté de mourir à soi et au monde, et le terme, c'est l'extinction de toute chose en Dieu et de toute chose que Dieu. Le mouvement substantiel a pour modèle de vie le modèle prophétique, mais ce modèle, et je finirai par là, est un modèle certes de sagesse, je citerai un ou deux mots encore, mais aussi un modèle d'extinction. La prière de Mohammed qu'évoque, je le dis rapidement, notre auteur, Moulla Sadra, c'est « Seigneur, montre-nous les choses comme elles sont ». Bon, on l'a vu. La prière d'Abraham, c'est « Seigneur, accorde-moi une sagesse ». Et donc la perfection, c'est évidemment d'être possédé pleinement du Logos, c'est que, on l'a vu, Jésus, Esprit de Dieu, deviennent le modèle, comme homme parfait, de l'âme humaine recevant l'insufflation de l'esprit. Ce point est acquis. Mais, d'autre part, on l'a vu aussi, la perfection, c'est la foi elle-même. Il écrit dans une phrase, de temps en temps, il a des éclairs comme ça que je trouve très beaux d'expressions ramassées. Moulla Sadra écrit « La foi, c'est l'homme en sa vérité. » Proposition très puissante. Pourquoi ? Parce que la foi, telle qu'on l'a en tout cas définie, c'est ce qui atteste que l'homme est conscient de son acte même d'exister. La foi n'est pas une donnée psychologique, la foi c'est ce qui constitue l'homme dans son immédiat sentiment de l'être. Mais troisièmement, et ce point n'est non moins important, la foi, la connaissance intellective, le logos, culmine dans l'extinction en Dieu. Et il est très remarquable que Moulla Sadra cite souvent, alors de manière ambivalente, le grand mystique El-Hallaj. Je dis bien qu'il le cite de manière ambivalente. Il se protège en rappelant tous les motifs de condamnation du grand mystique Hallaj. Il les fait sien. Alors je me demande s'il les fait sien par précaution ou s'il les fait sien par conviction. Tout de même, c'est un tribunal chiite qui a condamné Hallaj. Les auteurs chiites n'ont pas cessé de lui reprocher la chose majeure qui était d'avoir brisé le secret, le secret divin. N'empêche qu'une fois qu'il a dit ça, quand il le dit, et pas toujours, quand il a cette prudence, Moulla Sadra cite avec éloge Hallaj en disant ceci. La contemplation directe de l'essence, qui est le terme de la perfection, n'est pas incompatible avec l'extinction. Car ceci ne se produit, dit Moulla Sadra, qu'en ôtant les attentions que l'on porte à soi et en convertissant en totalité son propre soi au réel divin. Celui qui connaît est encore sous les voiles de son existence déterminée, de son existence singulière. il est séparé de la perception du réel divin. Et ce voile ne se lèvera pas, loin de lui, sous le prétexte qu'il ne serait pas empêché de contempler. Non, mais son statut demeure, comme le dit El-Hallaj, et voilà les mots de Hallaj, « Entre moi et toi, il y a un « c'est moi » qui me tourmente. Ah, enlève par ton « c'est moi » mon « c'est moi » d'entre nous deux. » La foi se définit donc par cet anéantissement de soi dans la majesté divine. Elle est donc cet anéantissement est le terme d'une purification morale, d'une purification du cœur, d'une perfection de l'acte de la connaissance. Et l'on voit que ce moment ultime, qui est l'union mystique dans l'extinction de soi, c'est à la fois évidemment le triomphe de l'amour, du pur amour, dont on a parlé, c'est-à-dire de l'amour sans concession, et c'est aussi quelque chose qui va au-delà de l'intellect et qui rejoint ce qu'il appelle parfois, dans certains de ses traités, le néant premier, qui est la vérité même de l'être, parce que c'est l'être pur qui ne se confond à aucune figure de l'étant déterminé. Je vous remercie.
Vous parliez de l'insufflation de l'Esprit Saint dans tout homme, alors au modèle de Jésus. Et en fait, qu'est-ce qu'il entend vraiment par là ? Par rapport à Jésus, parce qu'il y a toute une tradition par rapport à Jésus, quelque chose de très spécifique. Mais qu'est-ce que, par rapport à un homme normal, mais un pèlerin, quel serait le rapport ?
C'est... Ah bon, bah alors je note. Alors,
voilà, le souffle.
Jésus, voilà. Jésus et le souffle. Alors, moi, ça va aller vite.
D'autres ?
Alors, ça va aller vite.
Oui ? À voix haute.
Vous disiez tout à l'heure que le sophisme méprise l'enseignement.
Et... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que selon Sadra, le défaut était que certains maîtres soufis méprisaient l'enseignement.
Justement, le soufisme est là pour ouvrir des portes et pour permettre une relation directe avec la vie spirituelle. Donc c'est un enseignement.
Bon, je vous dirai après. Je suis contraint de répondre en bloc.
Oui.
C'est bien dommage.
Bah, oui.
Moi, la fond avec Gauchaneros, de Chavesari.
Quelle est la relation avec Gauchaneros de Chavesari ? Vous pouvez déjà répondre à trois questions, je pense. Que... Après, on verra, ça donnera le temps d'apprécier.
Alors, pour Jésus et le souffle, il s'agit de prendre modèle sur les prophètes. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Pour la pérégrination, le pèlerinage est une transformation. Donc l'idéal est de se rendre prophète, si j'ose dire, soi-même, à l'imitation des prophètes. Voilà. Donc l'insufflation, après, elle ne dépend de personne, elle ne dépend que de Dieu. Hein, c'est un don gratuit. Donc je ne peux pas vous en dire plus, puisque j'ignore ce qu'il en est de la manière dont ce don est donné. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Quant au soufisme et à l'enseignement, il faut que je précise. Je parle de sa doctrine, je ne parle pas en général. Il considère que, il n'est pas le seul, et c'est un philosophe. Et il considère avec sérieux que nul homme ne peut, s'il n'a été formé par un enseignement métaphysique sérieux, ce sans quoi il n'écrirait pas ses livres, et avoir une vie spirituelle. Il en parle avec beaucoup de concret. Il dit, voilà, on voit ces soufis qui sont des héros, hein, qui mènent une vie héroïque d'ascèse, et qui ne s'occupent ni du Coran, ni des commentaires du Coran, ni des hadiths, ni a fortiori de la science. Ils veulent pas être des savants. Ils y vont directement. Donc ils passent des journées exténuante dans les exercices spirituels. Ça, c'est pas du tout méprisable. Mais l'exercice spirituel ne peut pas suffire puisque aucun homme, sauf à être déjà Mohammed ou Jésus, ne peut éviter les tentations démoniaques. Or, c'est un point que je vous apporte, si vous voulez, pour comprendre, la science sert à reconnaître les tentations démoniaques. Alors, il cite, avec un peu de méchanceté, un maître soufi qui a passé 30 ans dans une obsession. La tentation démoniaque, c'est ce qu'on appelle la névrose obsessionnelle. Hein. Bon, donc c'est l'obsession. Et le maître soufi a une obsession, si, ce sont les idées obsédantes qui vous viennent. Et les idées obsédantes empêchent l'union avec Dieu. Et le maître en question, il était 30 ans avec ses images obsessionnelles, alors que pense-t-il? Alors là, vous en pensez ce que vous voulez. Le philosophe dit, moi, je sais reconnaître les idées obsessionnelles, donc je pourrais m'en détacher plus vite. Voilà, c'était ça la démonstration.
Et Golshaneraz?
Alors, écoutez, là, il est cité, absolument, Golshaneraz est cité, je n'ai pas donné toute la liste, parce que ça aurait été tout à fait, comment dire, lassant, mais Golshaneraz est évidemment cité, emprunté, et rentre dans ce corpus de référence qui fait l'intérêt d'un penseur comme Sadra, parce que il a une vraie passion de la totalité. Donc c'est toujours très intéressant de voir cette totalisation des références mystiques, parmi lesquelles il y a évidemment Golshaneraz.
Bon, on va. Ouais. Encore merci.
Merci à vous. Merci.